Et le titre ce matin du message, c'est « Ne crains pas ». Ne crains pas. Ne crains pas. Chacun d'entre nous. Parce que dans notre vie de tous les jours, la crainte est souvent présente. Quoi qu'on le dise, moi, bon, je n'ai pas peur. Je me rappelle toujours quand j'étais gamin, je ne savais pas nager, mais j'ai osé. Disons, j'ai été quand même confronté à des copains qui m'ont dit « t'es pas cap ». À cette époque-là, il y a quelques années, j'avais 10 ans, on était sur la jetée dans ma lieu de naissance à Audierne, et puis il y avait le bassin qui est à côté, dans lequel il y avait au moins 4 mètres d'eau, 3-4 mètres d'eau. Je ne savais pas nager. Et ils m'ont dit, t'es pas cap. Et moi, j'ai voulu prouver que j'étais capable. Et j'ai sauté dans l'eau. J'ai sauté dans l'eau, je ne savais pas nager. Pourtant, je suis encore là. Hein. Mais, vous savez, il y a eu une nage tout à fait, comment dirais-je, instinctive. Je me suis nagé comme le chien, le chat. Elle avait mes mains, mes pieds derrière, puis je suis arrivé sur la berge. Moi, sur la jetée, il a fallu que je la grimpe quand même. Et finalement, après, j'ai appris à nager. Mais au départ, on est parfois sollicité par ceux qui nous entourent pour faire des choses, des actions qui dépassent l'entendement et des actions qui sont contraires à la logique et au bon sens. Tu n'es pas capable. Et si, on peut être capable. Mais attention, je ne connaissais pas Dieu à cette époque-là, il m'a gardé. Il m'a gardé et ça fait donc un certain nombre d'années que j'ai vécu depuis cette aventure qui s'est passé au bord de la mer. Et finalement, je ne regrette pas ce qui s'est passé. Ça m'a permis d'apprendre à nager. Hein? Bon, alors, voyons donc au niveau de notre sujet, pas la crainte. On va le prendre dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41. Beaucoup d'entre nous connaissent bien ce passage. Oui, il y a une promeneuse, c'est pas grave. Chapitre 41. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Nombreux d'entre nous connaissent bien ce passage parce que ça a dû leur être donné parfois comme une parole du Seigneur pour les encourager, pour les faire aller plus loin. Mais ici, on parle d'Israël. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, introduction longue, hein, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parole d'encouragement, parole d'exhortation pour le peuple d'Israël, mais qui peut aussi s'adresser à chacun d'entre nous. Nous avons besoin aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, d'être encouragés à persévérer dans la vie. Oui, viens donc avec moi. Viens. Ah bon? Israël dont a trouvé, s'est trouvé maintes fois en situation extrêmement difficile, où il n'y avait aucune issue possible, aucune issue possible. Mais Dieu était leur Dieu. Tout semblait perdu, mais Dieu était là. Ne crains rien, je suis avec toi. Vous savez, face à l'adversité, face à une situation qu'on ne peut pas résoudre soi-même, où il n'y a pas d'issue, quel est notre recours? Pour nous, le recours, c'est Dieu. Pour les hommes, dans le monde, il y a toutes sortes de procédés, de moyens qu'ils peuvent utiliser, et en particulier la violence. Tout est sombre, tout est prêt à dégringoler, à se défaire, il n'y a plus d'espoir. On va disparaître. Et soudain, la voix de Dieu se fait entendre. Ne crains rien, je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Entendre la voix de Dieu. Entendre Dieu nous parler. Dieu s'adresser à nous dans les situations que nous vivons, où tout état, où toute extrémité, toute possibilité d'en sortir est impossible. Avez-vous fait cette expérience ? D'entendre un jour Dieu vous dire « Je suis avec toi. » C'est important d'entendre la voix de Dieu. Important d'entendre qu'il est là à nos côtés. Il va nous faire passer par un chemin que nous ne connaissions pas. Il va nous donner une direction nouvelle pour éviter justement cette affaire. Je rappelle qu'un missionnaire qui était en Philippines et qui travaillait, donc je crois que c'était un Australien, et qui travaillait là-dedans pour l'Évangile dans une des îles où, vous savez, il y a eu la violence dans les Philippines. Ce n'est pas facile pour les chrétiens dans certaines îles. Et là, il y avait donc des bandes de terroristes et ils devaient prendre un car pour aller d'un lieu à un autre. Comme nous, quand on était en Afrique, on prenait les taxis brousses, à peu près pareil, quoi, hein, les mêmes conditions, avec des véhicules plus ou moins en bon état, sur des routes bien malades. Et puis Dieu lui dit, ne pars pas. Ah, oh, ne pars pas. Bon, ben, puisque tu dis, ne pars pas, je ne pars pas. Le bus, le véhicule, est parti sur la route. Et une dizaine de kilomètres plus loin, ce bus a été attaqué par les terroristes, les brigands. Et toutes les personnes qui étaient à bord de ce bus ont été tuées. Lui, le Seigneur lui a dit une parole, il a dit « Ne pars pas ». Et il a pu ensuite reprendre le chemin pour aller là où il fallait qu'il soit à une certaine heure plutôt qu'à une autre, pour pas annoncer l'Évangile et pour proclamer l'Évangile et amener des gens à salut. S'il avait désobéi, s'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, son ministère était terminé. Il faut que nous soyons attentifs à la voix de Dieu. Nous, enfants de Dieu, qui connaissons Dieu, qui aimons Dieu, qui voulons le servir, écoutons sa voix et ne partons pas à l'aveuglette dans des décisions qui sont contraires à ce que Dieu veut. Parfois, on pense que c'est juste. On veut faire des choses pour lui. Mais Dieu nous dit, attention. Et c'est la crainte de Dieu qui doit être dans nos cœurs et non pas la crainte des hommes. Il aurait pu partir, je ne crains pas que ces terroristes vont me tuer, etc. Mais non, il aurait été. Il ne serait plus là. Dieu veut nous mettre sur une voie qui est la sienne, une voie sainte, dans laquelle les risques, les peurs, les craintes sont bannis. Simplement que la crainte de Dieu. Peut-être que parmi nous, ce matin, plusieurs sont dans ce cas de crainte et de peur. Vous savez, on avait parlé, quand j'ai prêché la dernière fois, j'ai parlé des géants qui rentrent dans notre vie et qui nous empêchent d'entrer dans le royaume. Mais la crainte des hommes, c'est un de ces géants. Je ne l'avais pas cité, mais il est là pour nous empêcher d'aller plus loin, pour témoigner, pour en somme vivre une vie chrétienne qui est digne du Seigneur. Cette crainte qui peut rentrer dans nos cœurs face à des personnes qui sont en face de nous et qui nous dominent. Nous voyons dans le monde aujourd'hui combien les chrétiens sont persécutés. Sur toute la surface de la terre. On dit, mais non, en Europe. Ben si, il y a des persécutions. Qui ne sont peut-être pas des persécutions violentes, mais qui sont des pressions exercées sur les chrétiens. Pour les empêcher de parler. Pour les empêcher de témoigner. Avant, on pouvait témoigner dans les rues, librement. Je me rappelle qu'en Afrique, on prenait un bigophone et puis on allait sur le marché et puis hop. On rentre toujours dans un village où ça ne marchait pas. Puis on est allé dans un autre village. J'ai dit, mais Dieu ne veut pas que nous soyons ici. Allons là-bas. Le frère qui me dit, non, il ne se passe jamais rien là-bas. ne se passe jamais rien. C'est un quartier qui est pourri. Impossible de pouvoir annoncer l'évangile dans ce quartier. On va se faire, pas démolir, mais presque. En utilisant ce terme. Finalement, on y est allé. Et 100 personnes se sont données au Seigneur. On a vu 100 personnes s'engager. Ils étaient avec des ficelles autour des poignets, des ficelles autour de la taille. Ils avaient des gris-gris partout. Et ils se sont débarrassés de ces gris-gris et ils ont donné leur vie à Christ. La parole de Dieu, pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. Et on a vu des choses miraculeuses se produire. On voudrait le voir parmi nous. Voilà qu'on parle à une personne et elle se donne à Christ. Oui. Tout de suite. On dit deux mots, trois mots, ça y est. Oh. J'aimerais. Mais avons-nous la foi suffisante pour croire que cela est possible? Vous savez, avec la vie d'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons autour de nous, toutes les actions brutales et violentes pour défendre les droits, paraît-il, plutôt que d'exercer leurs devoirs, nous voyons combien d'hommes et de femmes sont aujourd'hui déboussolés. Il dit, où est Dieu? Où est Dieu? Il est en nous, et c'est à travers nous qu'il va parler. Ne l'oublions pas. Et si cette crainte des hommes domine sur nos vies, alors restons entre nous, gentiment, ronronnons. Mais Dieu veut que nous témoignions. Et j'encourage à témoigner de cela avec, non pas avec violence, mais avec amour, avec douceur, avec compassion, avec miséricorde, pour que ces hommes et ces femmes qui sont perdus et égarés aujourd'hui trouvent à nouveau la vie. Tout à l'heure, Robert parlait, il y en a certains qui ont connu peut-être le Seigneur d'une façon puissante et qui se sont refroidis. Ce matin, Dieu vous encourage à relever la tête et aller plus loin. Il y a des angoisses, il y a des souffrances face aux situations que l'on vit. Prenez courage, ne craignez point. Ça pue de ma situation, la mienne comme la vôtre. On n'est pas à l'abri, nous, même en tant que prédicateurs ou autres, d'avoir des craintes et des peurs et des angoisses. Des découragements. Des larmes. Mais Dieu nous donne des pouvoirs. Tenir ferme, malgré tout et contre tout, face à l'ambiance générale que nous vivons aujourd'hui. Dieu n'existe pas. On va changer le calendrier. On va dire l'an zéro de la nouvelle ère. Mais pas l'an zéro en Jésus-Christ. Jésus-Christ banni. L'ère nouvelle, oui. Le nom de Dieu, on n'en parle pas. Des signes ostentatoires que nous pouvons avoir nous-mêmes, pas question d'en avoir. Mais on a notre bouche. Et on peut parler et on peut témoigner. Et quand Jérémie disait dans les Lamentations, ah oui, les Jérémiades, on a mis ça en dérision, les Jérémiades, les choses, hein, on pleurniche. Mais qu'a souffert Jérémie? Qu'a souffert Jérémie lorsqu'il a été mis dans la citerne, abandonné dans une citerne? Bon, il n'y avait pas d'eau, il y avait de la boue, mais quand même, si vous êtes dans la boue, sans possibilité de sortir, la hauteur du plafond, au-dessus de votre tête, comme ici, Dieu m'a-t-il abandonné? Pourrait-il dire? Il se lamentait, oui, c'est vrai. Mais Dieu a mis à cœur un eunuque qui était serviteur dans cet endroit de citerne qui appartenait à un prince. Et Dieu l'a convaincu de prendre une corde, descendre cette corde avec des haillons, avec des chiffons. Il a dit à Jérémie, mets ces chiffons sous tes bras, tes aisselles, et passe la corde. Et ils l'ont sorti. Dieu a inspiré cet homme pour que Jérémie sorte de cette citerne. Pourrions-nous dire comment faire, nous aussi? Que faire Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Pessimiste ou pas? Mais il y a un exemple concret aussi de la protection de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est lors du passage de la mer Rouge. Lorsque, dans l'Exode, au chapitre 5, on va lire quelques versets. Pardon. Chapitre 5 de l'Exode. Oh, non, j'ai dû me tromper de chapitre là. Non, c'est plus loin. C'est lequel pour la sortie d'Égypte? Le 15, voilà, j'ai oublié un hein, devant. 15 ou 14? Voilà. Ils sont arrivés sous les ordres de Dieu à un endroit précis. C'est Dieu qui a dit, vous devez passer par là. Ils auraient dû dire, mais c'est pas possible, Seigneur, on peut passer un peu plus haut, et puis là, il n'y a pas de mer, et puis on peut retourner, aller directement dans le pays de Canaan, là. Ah, mais Dieu dit, non, vous allez par là. Ils sont arrivés donc dans un endroit impossible. Derrière eux, il y avait le désert, avec un goulet entre deux collines ou deux montagnes, et en face à la mer, comme un entonnoir. Ils étaient sortis par l'entonnoir et arrivés là, il n'y avait plus d'issue, ils ne pouvaient pas aller plus loin, la mer était là. Et qui est-ce qui arrivait derrière? Eh bien, les Égyptiens, avec leurs chars, leur armée, et pas possibilité de s'en sortir. Un entonnoir, une nasse, un piège. Mais la foule, donc, est dans un état d'esprit lamentable. Le verset 11. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait, ô nous, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous servir les Égyptiens. Moïse répondit, au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Facile à dire. Facile à dire. Très facile à dire. Mais à vivre dans le quotidien. J'imagine plusieurs millions de personnes bloquées sur la rive, au bord de la mer, sur la plage. Et puis derrière, la panique. Vous avez déjà vu une panique? Avez-vous vécu une panique? Il y en a qui ont vécu une panique. Ben nous, ça nous est arrivé une fois. C'était au début de l'église que nous fréquentions. C'était dans les années 72, 73. On avait loué une salle un peu loin où habitait Marie-Annick à cette époque-là, à La Touche. Une salle qui était là. Et puis, on avait une réunion le soir. Et puis, voilà que dans la boîte à lettres qui donnait sur la rue, les jeunes du coin ont mis un chapelet de pétards et ont allumé les pétards. Et les pétards ont explosé dans la salle. La boîte à lettres, la porte de la boîte à lettres à l'intérieur s'est ouverte et tout s'est répandu dans la pièce. Vous voyez la panique? Je me rappelle toujours, il y avait des chaises, des gens qui passaient par-dessus les chaises, tellement ils étaient paniqués. On a dit, gardez votre calme, ce n'est que des pétards. Ce n'est pas des balles, j'aurais pu. Mais la panique. On était peut-être une quarantaine, mais quand même, la panique parmi les 40, ça avait beaucoup. Ça pourrait faire des dégâts et des blessures. Et là, Dieu, des millions. La voix de Dieu. Je ne sais pas comment Moïse avait, il n'avait pas un bigophone, hein. Mais la voix a porté sur des millions de personnes. C'est que la voix de l'Éternel aussi s'adressait à chacun en particulier, en leur disant, restez calme, taisez-vous. Quelle grâce merveilleuse d'avoir un tel Dieu qui prend soin de nous dans les pires situations que nous pouvons vivre. Et ils passèrent donc la mer Rouge s'ouvrit. Et ils passèrent de l'autre côté. Ils n'étaient pas encore arrivés au Canaan. Mais ils disaient, qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? Expérience forte vécue par ces hommes, par ces hommes et ces femmes et ces enfants qui étaient là, frères et sœurs, soyons attentifs à la voix de Dieu et ne soyons pas dans une crainte, disons, maladive de choses que les hommes pourraient nous faire. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est au monde. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou les autres choses ? Nous devons faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle on peut prendre notre libre décision en disant « Dieu, tu ne t'occupes pas de ces affaires, ça me concerne moi ». Non, dans toutes les situations où nous vivons, Dieu est là. Et on a besoin d'être attentif à sa voix. Les disciples diront à Jésus, donne-nous la foi. Augmente notre foi. Rappelez-vous ce que Jésus répondit. Si vous avez de la foi comme un grain de sève, dites à cette sycomore de se jeter dans la mer et le ferez. La foi comme un grain de sève. Quelque chose de tout petit est suffisant pour pouvoir faire des prodiges et des miracles. Après qu'en Suisse, il y avait un frère, un pasteur, il y a beaucoup de rochats en Suisse, hein, et ce frère rochat, donc, il avait été arrivé avec une petite serviette à la main, à la prédication, et puis il prend une petite boîte dans sa sacoche, et puis il la pose sur le pupitre, et puis il y a une boîte, il la secoue. Il y avait dans cette petite boîte une graine. Une graine. Une graine de hêtre. Une graine de hêtre. Hêtre, c'est de vivace. Hein, de hêtre. Et cette graine, il dit, voyez, ça, c'est de la dynamite. Ah ! Ah oui ? Pourquoi ? Il a expliqué. Mettez cette graine dans une fissure du rocher. D'un rocher. Arrosez-la, avec un peu de terre, et laissez pousser. L'arbre va pousser. Là, va sortir. Les racines vont descendre. Et les racines vont faire éclater le rocher. Dynamite. Puissant. La foi est cela. Une simple graine que vous pouvez mettre, semer quelque part, dans le cœur de quelqu'un. Et tout ce qui est, comment dirais-je, dans la vie de ces personnes, les choses qui sont pas convenables vont disparaître. Il va rester simplement ce que Dieu veut qu'il reste. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? La nature nous montre plein de choses magnifiques. Et je me rappelle aussi qu'on était dans un village en Centrafrique, et on était au bord d'un fleuve, d'un petit fleuve qui était là, et puis je remarque qu'il y avait un arbre qui était à cheval sur un rocher. Il était là, et avec ses racines, il n'avait pas pénétré, mais les racines étaient descendues et entouraient le rocher et elle plongeait dans l'eau. Et on avait là-bas, il fallait l'inspiration de Dieu à chaque instant, n'est-ce pas ? On va dire, sujet du message, un arbre près des courants d'eau. La nature me montrait cela et montrait que ce que dans notre vie, nous pouvions installer aussi, nous comme un arbre planté sur le rocher qu'est Jésus, mais près d'un courant d'eau. Où la puissance de l'esprit se manifeste puissamment, où la crainte disparaît, où la peur n'est plus présente. Voilà, nous voyons ici un peu dire dans la théologie et dans. Mais ce qui est important, c'est aussi les aspects pratiques des choses. Et j'ai cherché quelques exemples dans le passé dans le passé de personnes qui ont vécu des expériences vraiment terribles dans notre passé, disons, dans le siècle présent, et celui qui était là il y a quelques jours encore, puisqu'il n'y a que 16 ans, un jour est comme 1000 ans. Je pensais à Marie Durand. Cette femme qui était, disons, dans les Cévennes, vous savez ce qui s'est passé au niveau du XVIIe siècle, du XVIIe siècle et XVIIIe siècle avec les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, avec les Louis XV, oui, avec les dragonnades.
Louis XIV.
Louis XIV. Oui, prof de géo, hein, et d'histoire. C'est bien, hein ? Au moins, je suis averti, là. Oui, oui. Mais vous avez osé, c'est bien. Elle a été enfermée dans cette tour de Constance à Aigues-Mortes. Elle a été enfermée à l'âge de 19 ans. Parce que ses parents et elle, son père et elle, sa mère, je crois, étaient décédés, ils avaient osé encore lire la Bible, parce qu'on lui avait demandé de renier la foi protestante pour devenir catholique. Ils avaient osé avoir une Bible et la lire dans leur maison. Et ils ont été arrêtés. Je pense que le père a été aux galères à cause de sa foi, et elle a été mise dans la tour de Constance, 19 ans. Elle est restée là-dedans 38 ans, avec la foi persistante. Elle avait gravé sur la margelle du puits, dans la cour de cette tour, « Résister ». Résister. 38 ans. Elle a été libérée parce que, finalement, un noble de la région a été visiter cette tour, a été horrifié de voir les conditions dans lesquelles ces femmes vivaient. Elle était là, dans cette prison. Et la dernière, je crois, avait été libérée quelques années encore plus tard. Il y avait encore une femme qui était restée 41 ans dans la prison. 41 ans. Pour sa foi. C'est facile de sortir. Renie ta foi, tu sors. Elle n'a pas eu la crainte des hommes. Elle a persévéré, elle a continué pendant 38 ans. Elle était de 1730 à 1768 dans cette prison. Elle est morte 8 ans plus tard. Oui. Il y a au moins, hein, quelqu'un qui est au courant. Mais intéressez-vous à l'histoire. Vous savez, vous pouvez aller sur Wikipédia, hein, vous mettez Marie Durand, et puis vous avez toute son histoire. Très documentée. Il faut d'abord chercher. Bon, je le savais, mais j'ai voulu vraiment vérifier des choses. Alors, je suis allé, vous voyez. Merci, Internet. Pour avoir des précisions plus grandes. Il y a un autre pasteur que j'ai connu, je disais à Marie-Thérèse, il était venu à Rennes, on s'était à Nantes, dans les années 71, c'était Richard Wurmbrand, qui était un pasteur roumain, d'origine juive, comme sa femme, et qui s'était converti là-bas, et qui s'était donné à Christ, et des pasteurs, donc, dans une des villes de Roumanie, dans les années 44, je crois. Et puis, il s'est vraiment engagé à témoigner et à proclamer l'Évangile dans son pays où le régime communiste s'était installé après la guerre, où tout ce qui était Dieu était banni. En 48, il a été arrêté et puis il a passé 3 années de solitude en prison. Pas une visite. Pas un contact avec qui que ce soit, à part ses geôliers qu'il torturait. Bon, il était dans cette prison qui faisait, je crois, 3 mètres sur 3, c'est à la cellule, où il y a à peu près la taille. On tournait en rond. Alors, on lui demandait de marcher, de tourner sans arrêt tout autour de cette cellule. Et s'il s'arrêtait, la porte s'ouvrait, il était battu. 3 ans. Il devait renier sa foi. Il n'a pas eu la crainte des hommes. Et il est resté encore 11 ans en prison. Encore pour sa foi. Et il a été libéré, donc il a été acheté. Parce que les prisonniers, le régime roumain vendait les prisonniers politiques et autres à un certain tarif. La moyenne des prix, c'était 1900 dollars. Les esclaves. Lui, il a été, on a proposé 10 000 dollars. La valeur de cet homme, pour les gens, les communistes, il était extrêmement dangereux. À cause de sa foi, à cause de sa persévérance. D'autres avaient lâché depuis très longtemps. Mais enfin, il a été libéré. Je crois des églises américaines qui ont payé pour qu'il devienne libre. Et je me rappelle quand il était venu, je crois que c'était en 71, 72, c'était à Nantes, je me rappelle, et j'avais vu cet homme. Quand j'avais vu son regard, quand j'avais vu sa stature, il rayonnait de Christ. Il rayonnait. Lui qui avait vécu des choses terribles, il manifestait la puissance de Dieu dans sa vie, simplement. Pendant sa captivité, il a été sur le point de craquer. Satan était dans la prison, était dans sa cellule, et l'agressait sans arrêt. Allez sur Wikipédia, vous verrez le poème qu'il a écrit. Allez voir. Wurmbrand, vous voyez comment ça s'écrit ? W-U-R-M-B-R-A-N-D. Vous marquez Wurmbrand et vous allez le voir. C'est important de voir aussi des témoignages d'hommes ou de femmes qui ont vécu des choses terribles pour l'Évangile et qui n'ont pas eu peur des hommes, qui ont tenu ferme. Il y a encore d'autres, je me rappelle toujours le pasteur Youn, qu'on a rencontré en 2005 à une pastorale sur la mission à Dijon. Je me rappelle toujours cet homme qui m'avait dit « Frère, vous étiez mort et Dieu vous a redonné la vie pour le servir encore. » Parce que j'étais avec mon infarctus et que j'étais mort, Dieu m'a ramené à la vie. Et il ne connaissait pas. Et ce qu'il m'a dit, c'était extrêmement extraordinaire, la manière dont il a pu dire ces choses. Moi, j'étais vraiment bouleversé. Cet homme, dans une prison, on lui avait brisé les jambes. Brisé les deux jambes. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas. Et Dieu lui dit, lève-toi. Il se lève, les jambes, les os brisés, rétablis. Avance. Sort. Il a traversé la cour de la prison et il est sorti de la prison. C'est comme s'il était invisible. Et Dieu l'a ramené. Mais là aussi, lui, il était en prison parce qu'il avait fait une grossière erreur. Ce monsieur avait deux passeports. Et quand il est allé dans un pays et qu'il a passé la frontière, on a trouvé dans ses bagages deux passeports. Ah ! Un espion. Un espion. En prison. Vous pouvez tout dire et n'importe quoi. Non, il était en prison, il avait deux passeports. Une erreur, il était réfugié en Allemagne depuis longtemps, mais il a fait une erreur. Et Dieu l'a fait souffrir à un moment donné dans la prison, reconnaître à travers son erreur qu'il était coupable, mais il a sorti le coupable de la prison en lui donnant des forces nouvelles pour aller plus loin. Ne crains pas. Ne crains pas les hommes. Aujourd'hui, dans le monde, autour de nous, combien d'hommes et de femmes sont dans cette situation que nous ignorons ? Qui vivent des persécutions terribles, des moments que nous ne pourrions pas imaginer. Mais Dieu les aide, les aime, les entoure pour qu'ils gardent la foi malgré tout. Et qu'ils puissent être témoins, qu'ils peuvent parler après de ce qu'ils ont vécu. Et encourager ceux et celles qui sont dans le découragement aujourd'hui. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Si les choses semblent difficiles pour vous, que votre témoignage ne passe pas toujours, qu'importe. Persévérez. Vous n'allez pas vous donner un certain nombre de convertis pour votre vie quand même, non ? Il va dire, il faut que je convertisse dans l'année 20 personnes. Et puis, il y en a au zéro. Oh là ! Mais votre contrat n'était pas bon. Vous ne l'aviez pas signé avec Dieu. Si vous amenez une personne dans l'année, à Christ, merveilleux. Ici, nous sommes ici tous, ici chacun d'entre nous. On parle des adultes, même des fois des enfants. Si vous témoignez avec puissance, avec amour, avec compassion et miséricorde à une personne, et que vous vous attachez à elle, et que vous cherchez à l'amener à Christ, l'Église va doubler. Vous l'avez déjà entendu, je le répète. Témoignage personnel est une chose d'essentiel aujourd'hui. Pourquoi craindre? Pourquoi avoir une ambition démesurée? Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et nous permet d'aller beaucoup plus loin en commençant tout petit. Vous savez, on ne grimpe pas une montagne avec une pente à 25% tout de suite. Hein. Quand vous commencez à monter des fois déjà en vélo à 2-3%, c'est dur. Hein. 1%, c'est pas mal. On ne s'en rend pas compte, mais on grimpe quand même. Avançons avec l'allure que Dieu veut, dans l'allure que le Seigneur désire pour nos vies. Je rappelle aussi le témoignage de c'était sur l'île de Madagascar, où une reine sanguinaire avait en somme, comment dire, expulsé tous les missionnaires qui avaient pu venir sur cette île. Sur cette île, et il y avait bien sûr des malgaches qui s'étaient convertis. Donc là aussi, il fallait qu'ils renient leur foi et reviennent aux cultes ancestraux. Et il y avait des irréductibles. Ben oui, irréductibles. Persévérés, qui croyaient et qui disaient toujours leur foi. Et on les a menés donc au sommet d'une falaise. Au sommet d'une falaise, et on leur a demandé à chacun, tu renies ou tu vas descendre la falaise nouée dans des nattes, enveloppé dans une nade liée, et tu vas mourir. Et les gens ont dit, non, moi je continue à croire en Christ, qui est mon sauveur et mon Seigneur. Et ils ont été balancés, jetés en bas de la colline, un par un. Un peu comme des otages. Et puis, il restait une dernière femme, une femme. Finalement, ils ne l'ont pas jetée. Ils ont pensé qu'une femme, c'est fragile, elle va céder, quoi. Mais non, elle n'a pas cédé. Et à travers elle, à travers cette femme, de nouveaux chrétiens sont nés. Et l'Évangile, de nouveau, s'est développé. Une personne. Une personne. Une personne suffit pour qu'il y ait l'Évangile qui se manifeste. Dans un pays d'Asie, il y avait un homme qui était venu s'installer dans un village. Et puis cet homme, on lui a dit, nous savons que tu es chrétien, mais on t'interdit de parler de Jésus-Christ. Tu peux vivre avec nous, mais tu ne prononces jamais le nom de Jésus. Il est chrétien. Mais est-ce qu'on peut montrer qu'on est chrétien sans vraiment dire le nom de Jésus? Ah non, ah si. Parce que son témoignage de vie était tel qu'il a été reconnu comme un sage dans le village, et puis il est mort. Dans le village, personne ne lui a fait de mal. Quelques années plus tard, voilà que des missionnaires arrivent. Et ces missionnaires commencent à parler de Jésus. Et les gens dans le village disent, mais ce que vous dites là, on l'a vu réellement dans la vie d'un tel qui était avec nous. On veut croire que ce Dieu vraiment existe. Et les gens se convertissent. Oui. Des fois, le témoignage muet peut interroger les personnes. Pourquoi es-tu ainsi? Je veux dire, récemment, je peux citer les noms, Stéphane Caro et puis, Jean-Christophe Huette, qui était étudiant à Brest. Jean-Christophe Huette, il est maintenant missionnaire, toujours missionnaire, il travaille dans les écoles pour le développement de l'éducation dans les écoles chrétiennes. Il a vraiment un ministère puissant. Puis Stéphane, lui, est prof de fac à Dijon, et puis il était ancien dans une église. Mais là, à la fac, Jean-Christophe Huette, c'était un militant syndicaliste étudiant, à fond la caisse. Puis Stéphane, lui, était très calme. C'était dans la même section. Mais Jean-Christophe lui dit, mais t'es pas comme nous, toi. T'es pas comme nous. Qu'est-ce que tu as dans ta vie, toi, qui est différent de nous? Ben, je dis, j'ai Jésus-Christ. Et Jean-Christophe s'est converti. Il a été bouleversé par la vie de son camarade qui était là, qui, sans avoir l'air d'y toucher, était un témoin puissant, parce qu'il avait été remarqué. Je me rappelle toujours de les avoir, quand il y a des années, revus à Grenoble. Ils étaient là, ensemble, toujours en témoignant, etc. L'un est devenu quelqu'un de missionnaire, l'autre est resté comme il était, quoi. Quelqu'un de stable, qui était dans la vie, mais qui témoigne de Jésus-Christ. N'oublions pas que nous sommes des témoins. Hein. On peut nous interroger. Pourquoi es-tu ainsi? As-tu la crainte de Dieu? Mais tu ne crains pas les hommes. Tu n'as pas peur des hommes dans ton témoignage. C'est surprenant. Soyons, frères et sœurs, attentifs à cela. Ne crains point, car je suis avec toi. Et quand je parlais jeudi dernier, justement, chez Jean-Luc et comment dirais-je, Annie, je disais, j'ai découvert que j'allais devais prêcher dimanche. J'ai regardé mon agenda, j'ai dit, oh, de quoi vais-je parler? Et tu m'as mis un cœur, ça. La crainte de l'Éternel. Le Dieu est tout-puissant, mais non la crainte des hommes. Il faut laisser le Saint-Esprit aussi nous éclairer les uns les autres, pour que nous allions de victoire en victoire sur le chemin qu'il a mis devant nous. Combien d'hommes et de femmes ont chuté parce qu'ils ont eu peur? Ils ont eu peur des autres. Du qu'en dira-t-on? C'est comme cet homme qui allait à un congrès et que sa femme lui dit, « Chérie, je mets ta Bible dans ta valise. » Je l'ai dit ici peut-être déjà. « Oui, merci ma chérie, merci. » Alors au retour, alors ça s'est bien passé? Oh oui, super. Personne ne s'est rendu compte que j'étais chrétien. Attention. Nos témoignages, où nous soyons, doit être refléter ce que nous sommes vraiment. Ou alors nous sommes des hypocrites. Dieu veut que nous agissions avec l'autorité qu'il veut nous donner pour le servir lui, l'honorer lui. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais on est tous des témoins. Il ne faut pas l'oublier. Et ce matin, je veux me rappeler de ce que Dieu m'a pu me donner durant toutes ces longues années déjà que je le connais, qui n'a jamais manqué. Jamais manqué. Il m'a redonné la vie, et ça va faire 13 ans qu'il m'a redonné la vie, et je suis heureux de cette vie qu'il m'a donnée. J'aurais pu être partir. Et l'Église ne serait pas là aujourd'hui, ici. Comment les choses seraient passées si j'étais parti en septembre 2003, un mois après le pasteur qui était à Grenoble, Jean-Pierre Touchel, lui est parti, moi je suis resté. Et Dieu a permis que je reste vivant pour le servir et l'honorer encore. Et pour voir l'Église aussi se développer. Parce que c'est là aussi qu'on voit combien Dieu est grand et puissant, comment il peut amener, à travers la diversité qui est au milieu de nous, sa main puissante manifestée pleinement dans les vies de chacun. Nous sommes tous d'origine différente. Quand on se regarde, on est tous différents, hein. En vrai, qu'on voit des fois dans les familles où les gens se ressemblent beaucoup, oui, d'accord. Mais on est tous des êtres différents dans lesquels Dieu veut mettre sa semence pour briser tout ce qui est opposé à lui au milieu de nous. Amen. Amen. Je pense à ce soir, je me confie en toi. On pourrait chanter a cappella. Vous connaissez ?